Alors, cours de doctrine appliquée numéro, on est quoi, 4 ? Je pense 4, hein ? Et on va continuer sur le thème des émotions encore. On a été bénis la semaine dernière avec le partage de Pasteur Luigi. Et la question qui nous intéresse ce soir, peut-être qu'on n'arrivera pas à tout développer parce que je crois que c'est vraiment un thème important, mais en tout cas on va avancer dans le sujet, c'est comment avoir le contrôle de soi et avoir une certaine maîtrise sur nos émotions. Parce qu'on a vu que les émotions sont... On est des êtres émotionnels. Elles ont été voulues par Dieu. Mais à cause de la chute, à cause du péché, quelquefois, elles nous jouent des tours. Et elles peuvent nous entraîner dans des décisions qui sont insensées et qui ont des conséquences souvent tragiques. On a vu l'histoire de Caïn et d'Abel, tout début de la Bible, hein, les premiers frères. Et on va parler de Caïn. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? On sait ce qu'il a fait. On sait ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Je trouvais que c'était une question intéressante. Parce que on se retrouvera peut-être pas dans une situation aussi tragique que celle de Caïn. Dans le sens que c'était une mort physique. Mais aujourd'hui, on peut se retrouver dans des situations où, comme Caïn, il a vécu une forme d'injustice à ses yeux. Et il faut être précis, parce que souvent, nous sommes enclins, parce qu'on a un monde assez rétréci, qui est centré sur nous, et quand notre personne, notre ego est touché et atteint, on a l'impression qu'on vit une injustice. Alors que c'est simplement qu'on n'est pas le centre du monde. D'accord ? Et donc, à cause de cette injustice, parce que l'histoire, c'est dans Genèse chapitre 4, hein, l'histoire de Caïn et d'Abel, si vous vous rappelez. Donc, Abel, c'est le petit frère. Caïn, c'est le frère aîné. Respect, s'il vous plaît. Attention. Caïn, c'est, voilà, c'est moi l'aîné. Hein, c'est moi qui t'apprends, c'est moi qui t'enseigne, c'est moi qui est le chef, c'est moi qui... Et en tout cas, lui, il avait une position qu'il a prise vraiment comme étant... voilà. Et donc, Abel était berger, Caïn, lui, il était cultivateur. Et donc, lorsque le temps était arrivé de faire une offrande au Seigneur, évidemment, Abel, il a fait ce que ses parents lui ont enseigné. Il a offert un agneau, un sacrifice avec le sang, qui était l'image du sacrifice, bien sûr, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de Jésus-Christ. Et Caïn, lui, il a fait une offrande, mais il a fait une offrande de ses fruits, de ses légumes, de ses pommes de terre, de ses ananas, je ne sais pas ce qu'il avait cultivé, pour lequel il a travaillé dur. Je veux dire, quand on est agriculteur, on sait que ça ne pousse pas tout seul, hein. Donc, ça, dans certains endroits, on dirait que ça pousse tout seul. Mais bon, en tout cas, il a travaillé, il a transpiré pour ça. Et quelque part, c'était une forme d'orgueil de vouloir plaire à Dieu, de vouloir être accepté par Dieu sur la base de ses efforts et de ses performances. Alors que pour Abel, c'était sur la base de ce que Dieu avait fait, qui était l'image de cet agneau, enfin, en tout cas, des vêtements de peau dont Dieu les a recouverts, parce qu'ils étaient recouverts de feuilles de figue, vous vous rappelez ? Et Dieu a dû tuer un animal innocent pour les couvrir. Et il n'y a que le sacrifice de Christ qui peut vraiment couvrir notre honte, notre culpabilité, et nous délivrer de la crainte. Donc Abel était dans la foi, Abel il était dans l'obéissance, alors que Caïn, lui, il était dans dans la justice propre, quelque part. J'ai un problème avec ma première page, elle ne s'affiche pas. C'est pas grave. On va aller directement à la deuxième. Alors, au verset 5, il est dit, verset 4, Dieu a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel, et au verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc voilà, il a une réaction émotionnelle, il est en colère, il n'est pas content, il trouve que c'est une forme d'injustice, parce que lui, il a quand même travaillé pour refaire cette offrande à Dieu, ça lui a coûté ce qu'il lui a offert, ce n'était pas juste, moi je te tue un petit agneau, là, ça ne m'a rien coûté. Hein? Non, c'était de l'énergie, du travail. Malheureusement, aussi derrière, sans qu'il le réalise, de l'orgueil. Et donc, il est en colère. Et son visage est abattu. Donc c'est juste pour... Pasteur Luigi expliquait ça aussi la semaine dernière, c'est que l'émotion, c'est une réaction qui dure. Et quelquefois, il y a des émotions qui sont... On a des réactions face à un danger ou quoi, qui sont importantes. Ça nous protège, ça nous sauve, d'accord, face à ça. Donc, je veux dire, si on n'avait pas la peur du vide, par exemple, on s'approcherait du vide, on tomberait dans le vide, on mourrait. Donc il y a des choses, je veux dire, c'est normal. Ces émotions-là, il ne faut pas dire, ah non, il ne faut plus d'émotions. Non, c'est comment on les gère, nos émotions. Et comment on va les laisser impacter notre vie et surtout notre façon de choisir, de penser. Parce que c'est ça la grande question, c'est comment on pense. Et aujourd'hui, on a laissé à nos émotions presque un rôle supérieur à la pensée. C'est-à-dire qu'elles sont en contrôle quelque part. Et ce qui fait que nos émotions nous amènent dans des situations, après dans des états, où on est abattu, où on est irrité. Donc qu'est-ce qu'ils pensent là ? Bah, Dieu n'est pas juste. Pourquoi mon frère a vu son offrande et accepté ? Pourquoi Dieu ne m'accepte pas moi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est pas juste. J'ai raison. C'est pas normal. D'accord ? Donc, Dieu vient lui parler. Et ça, c'est encore étonnant. Extraordinaire même. Et l'Éternel dit à Caïn : pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Donc Dieu sait, Dieu voit comment nos émotions nous touchent et nous affectent. D'accord ? Dieu, il est au courant. Et si Dieu est au courant, c'est le visage, le diable aussi, il est au courant. Parce que lui, il n'est pas omniscient comme Dieu, il ne sait pas tout. Il ne sait pas ce que nous, on pense. Mais comme il arrive à lire sur notre visage, il peut savoir ce qu'on pense. Et quand on a le visage abattu, ben, ce qu'on pense, ce n'est pas des pensées positives. Ce n'est pas des pensées de foi, ce n'est pas des pensées d'amour, c'est des pensées de colère, de vengeance, de justice, de... voilà, c'est tout ça mijote, et c'est ça le danger. C'est que si l'émotion on ne s'appuie pas sur les principes et les promesses de Dieu, cette émotion va nous gagner, nous grignoter. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc ça veut dire que là, on a une responsabilité. C'est qu'est-ce qu'on va laisser le péché prendre autorité sur nous avec notre raisonnement, notre orgueil, notre justice propre ? Ou est-ce qu'on va accepter, c'est la grande clé de cet enseignement peut-être, de se repentir et de s'humilier, de reconnaître que c'est pas moi qui ai raison, c'est pas ma pensée qui est au-dessus de celle de Dieu, mais c'est moi qui vais accepter d'élever la pensée de la vérité, de ce que Dieu dit à la place de ce que moi je pensais. Et peut-être ce qu'à Caïn aurait pu faire, s'il s'était humilié, s'il avait simplement offert le sacrifice que Dieu demandait. Je suis sûr, alors c'était dur, hein, qu'il serait allé voir Abel et lui dit « Est-ce que tu peux me donner un agneau ?» Tiens, je te donne 3 carottes et 2 navets. Ou même, il lui aurait donné gratuitement l'agneau. N'est-ce pas ? Mais ça voulait dire reconnaître ses torts, ça voulait dire, quelque part, s'humilier. Et c'est la tragédie de l'homme. C'est la racine du péché, c'est l'orgueil. Et si on n'accepte pas ce que Dieu dit et qu'on n'amène pas notre orgueil à la croix, il va dominer sur nous. Il va prendre avantage sur nous. Et il va nous amener dans des réactions qui auront des conséquences tragiques. On connaît la réaction de Caïn. C'est qu'au lieu de rebondir, vous savez, on a du mal à accepter quand on a fait une erreur. C'est pas ma faute. Non, c'est pas ma faute. D'ailleurs, quand Adam a péché, il dit non, mais c'est pas ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est toujours, on projette toujours. Il faut toujours trouver un bouc émissaire. Ça peut pas être moi. C'est pas possible que ce soit moi. Pourquoi ? Parce que ça révèle notre insécurité et notre manque d'image propre, de valeur et de compréhension de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est toute la tragédie de l'humanité dans les relations entre les humains. La tragédie, c'est que au lieu de régler ça avec Dieu, il a essayé de régler ça avec son frère. Et ça, c'est fini en disant « il y a un problème, je vais éliminer le problème, je vais éliminer mon frère et j'aurai plus de problème ». Et c'est là que les problèmes ont commencé. véritablement. Enfin, ont continué, en réalité, ils avaient déjà commencé, mais se sont aggravés. Et si on ne sait pas justement faire attention à ces émotions et la réaction qu'on va adopter, et la pensée qu'on va... comment on va méditer sur la situation, si on n'a pas la parole de Dieu pour nous aider à méditer sur la situation, si on n'a pas les pensées de Dieu pour échanger avec nos raisonnements, on va laisser le péché dominer sur nous, parce que c'est moi qui ai été blessé, c'est moi qui ai été humilié, c'est moi qui ai été... quelque part, c'est moi le grand frère, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais. Moi, je lui ai appris à marcher, à Abel. Il va pas m'apprendre la vie, quand même. Hein ? Je lui ai donné son biberon. Non, c'est peut-être pas, ils n'avaient pas les biberons à l'époque, j'en sais rien. En tout cas, si tu agis bien, ça veut dire qu'on peut agir bien. Ça demande l'humilité. Hein, et nous, malheureusement, on s'entête souvent. Et l'entêtement, de vouloir avoir raison. Vous savez, il y a des gens qui, à cause de ça, vivent des circonstances et des situations. Tu peux même pas imaginer que c'est possible. Mais parce qu'on veut avoir raison. On ne veut pas plier le genou. On ne veut pas reconnaître qu'on a eu tort. Et j'aimerais vous dire que dans un couple, c'est souvent tragique. Parce que chacun a raison. Mais tout le monde a raison et on ne se parle plus. Et le couple est en danger. D'accord ? Et la famille est en danger. Et les enfants deviennent les victimes de cette tragédie. Et les personnes, bien évidemment, les personnes aussi. J'ai entendu cette histoire qui semble une histoire tirée d'un conte ou d'une fiction. Un couple qui se sont disputés pour... Et souvent, c'est une pacotille. Ils ne savent peut-être même plus pourquoi ils se sont disputés. D'accord ? Le mari est allé dormir dans la chambre d'amis. Et 50 ans plus tard, c'était toujours le cas. Je te dis, mais comment c'est possible ? Ben oui. Donc, la façon dont on réagit... C'est important. Si nous sommes offensés parce que les autres sont bénis et pas nous, simplement parce qu'ils ont obéi à Dieu par la foi, alors que nous, on cherche l'approbation de Dieu par notre justice propre, c'est facile d'élever nos raisonnements au-dessus de Dieu. Et en fait, c'est pour ça que ce monde refuse la parole de Dieu et Jésus-Christ, parce que leurs raisonnements sont bien mieux que ce que Dieu dit. Nous, on voit mieux, nous, on comprend mieux, nous, on sait mieux, nous, on a raison. Ok. Qu'est-ce que Dieu peut dire ?
On a des preuves.
Nous, on peut donner des preuves, tout ce que vous voulez. Et la parole de Dieu est claire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, elle nous dit « Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » À l'époque, ils ne connaissaient pas encore ce principe, mais, enfin, ce nom, ce terme, mais ils pouvaient s'humilier et juste faire ce que Dieu demandait. Aujourd'hui, on a un mot pour ça. Je crois que c'était l'enseignement de ce dimanche. C'est le principe de la croix. C'est de renoncer. C'est d'abandonner. C'est de lâcher prise. C'est de dire, ok, non pas ma volonté, mais ta volonté. D'accord ? Et je lisais une belle image par rapport à ça dans une dévotion dernièrement. C'est l'histoire d'un homme, un musicien avec sa harpe, d'accord ? Un vieil homme. Et vous savez, souvent les musiciens, ils ont une sorte d'intimité avec leur instrument, parce que voilà, c'est leur instrument, leur violon, leur harpe, c'est avec ça qu'ils... Et donc, il chérissait sa harpe, il en prenait soin, et tout ça. Et en même temps, lorsque c'était le moment de jouer, ou juste avant de jouer, il faisait sonner les cordes assez violemment, quelque part, pour écouter le son. D'accord ? Et selon, évidemment, s'il était accordé ou pas accordé, il devait tourner la cheville et tendre déjà la corde qui était, on aurait dit, tendue au maximum. Hein ? Et là, c'était pas... Il le faisait... avec force, avec vigueur, parce qu'il savait exactement jusqu'à un moment donné où, quand il tapait sur la corde, c'est le bon son qui sonnait. Et quelque part, c'est ce que Dieu fait avec nos vies, nous sommes ses cordes. Il nous chérit parce qu'il nous aime, mais il n'a pas peur de tendre la corde, d'amener les pincements dans nos vies, dans des situations, dans des circonstances qui vont nous amener à un moment donné à avoir le bon son. Et ce bon son, ça sera de dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. C'est tout simple. Mais c'est là qu'on doit arriver. D'accord ? Et c'est là la vraie liberté. Quand on accepte de mourir, quand on accepte de perdre, quand on accepte de dire, ok, j'ai pas besoin d'avoir raison, je suis aimé, je suis accepté, je suis pardonné. Dieu a un plan plus grand et je sais que oui, dans le temps qui m'est donné de vivre sur cette terre, il y aura des souffrances, il y aura des injustices, il y aura des épreuves, il y aura des persécutions, il y aura toutes ces choses-là, il faut s'y attendre. Jésus dit, ils m'ont haï sans cause, et s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi, à cause de moi. Donc oui, il va y avoir des difficultés. Oui, il va y avoir des injustices. Là, on peut dire que pour Caïn, c'était une injustice à ses yeux. Mais en réalité, il n'y avait pas mort d'homme, je veux dire. C'était pas le bout du monde. Vous voyez ? Ben, les gens, ça commence comme ça, avec des petits détails. Et si ils n'ont pas la bonne attitude d'humilité dans ces moments-là, eh bien, c'est des détails qui vont devenir des montagnes, qui vont les endurcir, qui vont les entêter, qui vont les amener à chercher des solutions humaines à leurs problèmes, et qui vont en fait les emmener. Et c'est ça le péché, c'est qu'on s'enfonce, on se noie dans la mer de notre péché, de notre folie et de notre justice propre. Donc, il aurait pu agir autrement, quand même. On peut toujours agir autrement. Alors, pour nous, il y a quand même. La bonne nouvelle aussi en ce qui nous concerne, c'est que peut-être que nos premières réactions ne sont pas les bonnes. D'accord ? On n'a peut-être pas, peut-être c'est la colère, peut-être que pendant un temps on laisse l'amertume venir, on laisse des raisonnements de vengeance, on laisse la haine peut-être nous envahir, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Pour arriver à tuer son frère, c'est que ces émotions-là ont produit ça. Alors nous, peut-être qu'on ne va pas tuer quelqu'un avec un, je ne sais pas avec quoi il a tué, une pierre ou peu importe, mais en tout cas il l'a tué, mais nous on peut tuer avec des mots, on peut tuer avec de la calomnie, d'accord, avec des insinuations, avec plein de choses aujourd'hui. Donc, il peut y avoir des situations qui vont nous irriter, qui vont nous contrarier, qui vont nous blesser, qui vont nous affecter, qui vont nous toucher au plus profond. Et qu'est-ce qui va ressortir de là ? Quel son on va faire ressortir ? Est-ce que c'est un son qui va être à la gloire de Dieu ? Ou est-ce que c'est un son qui va être à notre gloire ? Et à notre perte ? À la fin de ça, c'est la perte. La perte de relation, la perte de communion avec Dieu. Parce que quand on est irrité contre une situation, contre une personne, en réalité, à la fin, on est irrité contre Dieu, et contre son plan, et contre ses voies, et contre ses façons de fonctionner. Donc, on ne peut pas dire... C'est pour ça que on ne peut pas être en communion avec Dieu si on est son frère. Ce n'est pas possible. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ce n'est pas biblique. Si tu es ton frère, si tu es en colère, si tu es dans l'amertume, si tu es dans la rancune... Ben, tu n'es pas en communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus enfant de Dieu, que tu as perdu ton salut. C'est pas... Mais ta communion avec Dieu, elle ne peut pas être vivante. Elle est affectée, forcément. Forcément. Parce que quelque part, tu te prends pour Dieu. Mais on n'est pas Dieu. Il n'y en a qu'un. Et Dieu seul pouvait résoudre ce problème. Et s'il s'était humilié, ben peut-être ils auraient pu vivre des choses extraordinaires ensemble, dans l'amour, dans l'unité, dans la joie, dans le travail. Ils auraient pu continuer à cultiver ces légumes. C'est pas un problème de cultiver ces légumes. C'est pas un problème de travailler. C'est pas un problème de transpirer. Mais c'est pas ça qui nous justifie devant Dieu. C'est pas ça qui nous rend acceptables devant Dieu. C'est toujours le sacrifice de Jésus-Christ. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était l'histoire. La leçon, c'est qu'on ne pourra jamais trouver la paix dans nos émotions sans l'œuvre de Christ. On cherche une solution humaine. La paix, en fait, dans Colossiens 1, 20, c'est un de mes versets préférés de la Bible. J'en ai beaucoup des versets préférés de la Bible, mais celui-là, c'est quand même... Je vais vous le lire. Il est dit, donc il parle de Jésus-Christ, il a voulu par lui, nom de Dieu, il a voulu par lui, par Jésus-Christ, donc tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. La paix qu'on recherche, la paix qu'on désire, c'est Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Il est présenté comme ça dans Ésaïe chapitre 9 et verset 5. C'est une de ses caractéristiques. Hein. Il est un de ses noms. Il est le prince de la paix. Et la paix dont on a besoin et qui est disponible, elle est en Jésus-Christ. Et la question, c'est est-ce que je vais me confier en Jésus-Christ ou pas? Est-ce que je vais me placer en Jésus-Christ ou pas? Est-ce que je vais accepter d'avaler ma salive, de fermer ma bouche et de dire « Ok Seigneur, je te fais confiance. Viens à mon secours. » Parce que il faut reconnaître que c'est fort les émotions. D'accord? Il faut reconnaître que c'est plus fort que nous en réalité. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, avec l'aide de ses pensées, si on choisit de penser avec Dieu, et d'élever donc les pensées de Dieu, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, de renverser nos raisonnements et les hauteurs, tout ça qui dit mais j'ai raison forcément, c'est moi qui ai raison, c'est évident, je le vois, je le sens, je le comprends, c'est moi qui ai raison. Oui, mais si tu as raison et que tu es séparé de Dieu et que tu n'as pas de communion avec tes frères et sœurs, tu as raison tout seul. C'est l'enfer. D'accord ? Donc tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok, c'est Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Et j'aimerais vous dire que une des leçons, on l'a déjà dit, mais je le redis encore, si on essaye de régler nos souffrances émotionnelles par nos propres moyens humains, on ne va faire que s'enfoncer davantage. C'est comme un placebo. Ça semble aller, mais l'infection continue. Le problème, c'est le cœur et l'orgueil. Et tant que ça, on n'est pas venu à la croix, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ça compense pour un moment. D'accord ? Il y a des gens qui sont très orgueilleux, qui vivent dans leur orgueil, et qui apparemment vivent de quoi ? De la convoitise. Ils ont des choses qui sont plus élevées que Dieu. Ils satisfont les désirs de la chair par leurs propres moyens. D'accord ? Vous avez froid comme ça ? Oh là là, mais comment va-t-on faire ? Là, on ne peut pas mettre le chauffage plus chaud. Hein. Sinon, après, on va devenir des écrevisses. Bon, Seigneur, fortifie-nous. Allez, on a quelques minutes encore. On sera tôt ou tard confronté à des circonstances qui causeront des réactions émotionnelles. On l'a déjà été et on le sera encore. D'accord ? Injustice, vraie, elles peuvent être des fois, quelquefois, elles peuvent être réelles. Hein, je veux dire, si on pense à la vie de Jésus-Christ, ils l'ont haï sans cause, d'accord ? Ils ont craché dessus, ils l'ont accusé, ils ont essayé de le piéger, ils l'ont rejeté, ils l'ont méprisé. Je veux dire, hein, des injustices, ou comme si on pense à l'histoire de David et de Saül, David qui était intègre, qui voulait servir Saül, sauf que Saül il avait un problème de sécurité et il est devenu jaloux de David et qui voulait tuer David. C'était injuste. David n'avait rien fait de mal, à part qu'il était béni par Dieu et que Dieu avait retiré sa bénédiction de Saül. Hein? Mais donc ça peut être, ou comme celle de Caïn. Quelque part, il n'y a pas vraiment... Je veux dire, Abel n'a rien fait de mal envers son frère. Il a juste fait ce qui était juste. Il a marché par la foi. Il a obéi à Dieu. D'accord ? Mais celui qui n'obéit pas à Dieu, tout de suite, il se sent accusé. Il se sent jugé, alors qu'il n'y a pas de jugement. Mais il y en a un qui marche dans la vérité, l'autre qui marche dans le mensonge. Donc des injustices, vous savez, combien de gens ont réagi violemment à des injustices ? Un homme qui est trompé peut-être par sa femme et qui va s'emporter émotionnellement, qui va tuer l'amant de sa femme. Enfin, je veux dire, des situations, c'est, je veux dire, aujourd'hui on fait des films sur ça, que sur ça. Enfin, beaucoup sur ça. Les problèmes, c'est quoi ? On dit, oh mais non, vous savez, l'adultère, la fornication, ça c'est pas un problème. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, on a la médecine, on a les préservatifs, on peut se protéger, c'est pas un problème. Attendez, c'est pas un problème. Regardez tous les problèmes émotionnels que ça cause. Tous les tragédies, la trahison. Quand t'es trahi, quand ta confiance est trahie, c'est tragique. Comment tu réagis ? C'est injuste. D'accord ? Nous, on a un exemple. On a Jésus-Christ. Et on a des promesses aussi qui nous dit que toute chose concourt pour notre bien. Et peut-être, si on pense, on a parlé de l'histoire de Joseph, je pense il y a 15 jours en arrière. C'est pas une trahison, c'est pas une grande injustice ce qu'il a subi, vendu par ses propres frères. Au départ, ils voulaient le tuer. Heureusement, il y en a un qui a eu la sagesse de dire attendez, finalement, ils l'ont vendu. Enfin bon, mais c'est une tragédie, n'est-ce pas ? Et c'est une trahison, et c'est une injustice. Et qu'est-ce qui a fait la différence avec Joseph ? La Bible le mentionne plusieurs fois dans son histoire, c'est que l'Éternel était avec lui. C'est parce qu'il avait choisi que l'Éternel soit avec nous. Parce que l'Éternel, il est toujours, il veut toujours être avec nous. Mais est-ce que nous, on accepte son plan ? Parce que nous, on voudrait tous être comme Joseph, Premier ministre, tout de suite. Mais surtout pas les années d'esclavage ou de prison, injustement encore. Là, c'est le bouquet. Tu dis, bon, Joseph, t'as eu ta dose d'injustice, d'accord ? Là, tu es prêt maintenant. Non, on va en mettre encore un peu. Vous imaginez ? Et si on n'a pas l'humilité de dire, ok, Seigneur, là, tes voix me dépassent et tes pensées me dépassent, mais je continue de croire dans la vérité. Je continue de croire dans ton amour, je continue de croire dans ton plan parfait, je continue de croire que tu as un moyen de sortir de ça. Et c'est toi qui as la solution. C'est comme les casse-têtes. Vous pouvez prendre vous avez peut-être joué avec ça, des choses qu'il faut défaire ou refaire. Enfin bon, hein, on peut tourner dans tous les sens des heures et des heures, il n'y a rien qui marche. Mais il y a une solution. Je pense à ta petite fille Pauline qui est une spécialiste du Rubik's Cube. Vous avez essayé déjà de faire les Rubik's Cube là, les 6 faces. Alors une face, on y arrive péniblement, 2 peut-être, mais les 6 d'un coup. Mais je veux dire, si vous n'avez pas été aidé pour le coup, vous y arriverez jamais. Vous y arriverez. Mais c'est exactement pareil. Si on ne laisse pas Dieu nous conduire dans ces solutions, les solutions qu'on va arriver seront des catastrophes. Voilà. Et Dieu nous dit mais si, laisse-moi faire. Et toi, tu vas être élevé. Et même les gens qui ont été injustes avec toi peuvent être rachetés. Parce que si toi, tu règles tes problèmes, les gens qui ont été injustes et qui ont vraiment commis une injustice, ben eux, il faut qu'ils soient condamnés. Et il n'y a pas de rédemption pour eux possible. Alors que les solutions de Dieu, c'est que toi, tu vas être glorifié. Toi, tu vas être élevé. Toi, tu vas être édifié en Dieu. Et ceux qui t'ont fait des bêtises, si avec le travail de Dieu, peuvent être rachetés aussi. Certains ne le voudront pas. Pharaon n'a pas voulu. Il aurait pu. D'accord ? Mais les frères de Joseph ont été restaurés.
Caïn aussi.
Dieu est venu. Il y a eu des conséquences. Il y a eu une discipline. Mais Dieu était encore venu. Il a intervenu. Il a mis une protection sur Caïn. Hein ? Donc ça, c'est encore la grâce qui est toujours là. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Donc ce qu'il veut, c'est restaurer, n'est-ce pas ? C'est restauré. Un autre, donc l'injustice, on ne supporte pas l'injustice. C'est pour ça qu'un jour la justice va éclater. Et c'est la justice de Dieu. Et cette justice-là, elle est parfaite. Si c'était la nôtre, à part nous, personne ne serait sauvé. Hein. Et même nous, si on est honnête, personne, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut la justice de Dieu. Et cette justice, c'est que le juste est mort pour les injustes. Ça, c'est la justice de Dieu, qui fait qu'on a une solution. Et j'aimerais vous dire que le pardon, la puissance du pardon, ça nous transforme et ça transforme les autres. Et face à l'injustice, On peut essayer. Je vous encourage d'essayer. C'est libérateur. C'est transformateur. Parce que c'est le cœur de Dieu qui est manifesté quand le pardon est exprimé. Et on est libre. Sinon, on est prisonnier. Prisonnier de notre rancune, prisonnier de notre vengeance, prisonnier de nos raisonnements, prisonnier d'émotions qui, à la longue, et c'est ce que disait Pasteur Luigi, vont produire des sentiments qui seront destructeurs. Et j'aimerais vous dire pourquoi les gens souffrent autant de maladies psychosomatiques aujourd'hui. Hein, je ne sais pas, on a une infirmière parmi nous, mais on ne sait pas quel est le pourcentage exact de maladies vraiment déclarées, physiques, tout ce que vous voulez, chimiques, mais qui ont pour une origine. Une origine psychosomatique, c'est-à-dire comment on pense à l'intérieur.
On peut considérer qu'il y a plus de
80%. Voilà, on a un chiffre à 80% ici. Qui dit mieux? Mais oui, on sait que c'est énorme. D'accord. Et après, on nous dit, oh, mais non, on peut penser ce qu'on veut. Et peut-être que si on pensait comme le Créateur nous propose, on sera en meilleure santé. On sera en meilleure santé dans notre tête et dans notre corps. Hein, la parole, elle est bonne. C'est comment dans le proverbe, ça sera la santé pour tes os. Hein, et tu penses bien avec Dieu. Mais non, on peut penser nous. L'orgueil, c'est toujours la même racine. Moi, je. Et la solution pour nous, pour Caïn, et pour. On va parler peut-être de Saül tout à l'heure. La solution, c'est la croix. C'est que je renonce et j'élève ce que Jésus-Christ a fait et je laisse régler les situations. Ça ne veut pas dire que je laisse tout à volo, mais je ne vais pas mettre ma main pour régler certaines choses. D'accord ? Moi, je garde mon cœur en communion avec Dieu. Et peut-être, j'aimerais vous dire qu'il peut arriver dans l'Église qu'on ait un différend avec un frère, avec une sœur. C'est dur. D'accord ? Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut avoir un différent. On ne le voit pas, on s'en fiche. Mais avec quelqu'un de proche. D'accord ? Ben, on voudrait régler ça. Émotionnellement, c'est dur. On voudrait régler tout de suite le problème. Alors, la solution, on le sait, hein, c'est pas d'essayer d'avoir raison. Parce que si tu veux avoir raison, l'autre va avoir raison, tout le monde a raison, et on se parle plus. D'accord ? La solution, c'est d'élever Dieu. Et de laisser Dieu restaurer les choses. Et si nous, on marche avec Dieu, et si l'autre fait la même chose, à un moment donné, on va se retrouver. Forcément. D'accord ? Alors que si on veut se retrouver tout de suite sans Dieu, ça peut être plus grave encore. L'histoire de Caïn et d'Abel, ça peut être tragique. Et voilà. Donc, la croix, c'est la solution pour nous. Un autre problème qu'on va rencontrer aussi, c'est l'insécurité. Et ça, c'est le problème de Saül. Saül, le roi, le premier roi d'Israël, vous connaissez cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 18 et verset 7, on va lire ce passage. 1 Samuel 18. David vient, au chapitre 17, vient de délivrer Israël en tuant Goliath. Il vient d'acquérir une victoire, une libération, hein, puisque ça faisait 40 jours que Goliath se présentait. Allez, au lieu de s'entretuer, les armées, ils choisissaient un champion. D'accord ? Bon, après, ils se sont quand même entretués. Hein. La victoire de David a fait que tout le peuple d'Israël s'est levé à un seul homme, ils ont poursuivi, ils ont dépouillé les Philistins, ils ont eu une grande victoire. Mais, donc c'est, voilà, David revient. Et puis, évidemment, David va maintenant être auprès de Saül et il va servir dans son armée. Et David, il est dit au verset 5, « Allez et réussissez partout où l'envoyait Saül. » Donc, il était soumis, il allait, il réussissait. Donc, il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Aïe, David, il était super. Trop bien, David. Trop, trop bien. Et alors qu'il revenait d'une victoire sur les Philistins, au verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000, Et David, c'est 10 000. Et vous imaginez Saül quand il entend ça. Le roi Saül, quand il entend ça, verset 8, Saül fut très irrité. Ah, c'est pareil que Caïn. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. L'insécurité. Et ça, ça nous guette tous. Et peut-être notamment un pasteur dans une église, quand Dieu est en train d'élever peut-être un autre homme dans avec des dons, dans la prédication, dans l'enseignement, qui est peut-être meilleur que lui, qui peut être... Hein, à chaque niveau, on peut trouver ça dans une entreprise, dans une famille, entre frères et sœurs, partout on peut trouver ce... Mais la tragédie de Saül, c'est son insécurité. Et le fait qu'il est dans la comparaison. C'est-à-dire que... Et c'est ça l'insécurité. C'est que quand on n'est pas sûr de qui on est en Christ, de l'amour de Dieu pour nous, de notre identité, de notre valeur, eh bien, elle dépend de ce que les gens disent. Et ça, c'est tragique. On ne vit pas devant les gens. Notre valeur, ce n'est pas les gens qui disent ce qu'on est. D'accord ? Alors, bien sûr, on préfère que les gens disent des compliments de nous. On est d'accord ? Mais peut-être qu'il peut y avoir des critiques qui peuvent être vraies et qui peuvent peut-être nous amener à grandir plus avec le Seigneur. D'accord ? Et puis il peut y avoir, on n'est pas obligé d'être le plus fort, on n'est pas obligé d'être. Je marquais quoi ? On n'est pas obligé d'être. Il peut y avoir des meilleurs que nous. On n'est pas obligé d'être le plus fort, le plus sage, le plus spirituel, le plus doué, le plus gentil, le plus capable. Parce que ça veut dire quoi ? Alors Dieu, il n'y en aime qu'un. Et tous les autres, il ne les aime pas. Ils ne valent rien. D'abord, personne n'est... Enfin si, il y en a un qui est comme ça, c'est Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas élevé au-dessus de nous à devenir inaccessible. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Au contraire. Donc, et ça, c'était le problème de... Est-ce qu'il y a une horloge ? Ah oui, là-bas. C'était le problème de Saül. Et ça a été tragique. Parce qu'il n'a pas su gérer cette émotion, cette irritation. En fait, il a dit, hop, il a été pas content, il était très, très en colère, et puis il a comme mis un peu sous le boisseau, mais elle a toujours mijoté. Elle n'a pas été réglée. Et c'est là le problème. C'est qu'elle va, elle va le poursuivre jusqu'à l'amener à la folie, carrément. Parce que toute la vie après de Saül, ça va être de tuer David. C'est l'ennemi. Mais ce n'est pas l'ennemi. C'est le mauvais combat. C'est le mauvais combat. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Parce qu'on on ne demeure pas dans l'amour de Dieu. Parce qu'on ne s'édifie pas. Dans Jude chapitre 20, il est dit de s'édifier, de se garder, de se... Comment c'est dit ? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. De se maintenir dans l'amour de Dieu. Et on peut échouer, on peut avoir une mauvaise émotion, une mauvaise réaction à une phrase, à une critique. Ok, on peut, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on va la laisser devenir la motivation pour essayer de devenir meilleur ? Ou est-ce qu'on va la porter à Dieu et puis laisser Dieu nous faire grandir ? Parce que oui, on peut grandir. Oui, on n'est pas parfait. Oui, on a besoin de correction. Et c'est le travail de Dieu qui tend cette corde, qui peint cette corde à travers les épreuves, les circonstances. Mais quelle est mon attitude ? Quelle est mon attitude ? Et on doit être vigilant de ne pas se laisser emporter, de ne pas laisser mijoter ses émotions et nous amener dans des façons de penser qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas selon l'œuvre accomplie, selon la croix de Jésus-Christ, selon le pardon qu'il a acquis. Et donc, la tragédie, c'est que Saül, juste un peu plus loin, hein, il est dit au verset 12, au verset 11, il dit « Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui deux fois. » Pas juste une fois, C'est-à-dire, elle a glissé, sa lance, elle a glissé. Non, elle n'a pas glissé. D'accord. Et Saül se leva. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec Dieu et s'était retiré de lui.
Avec David.
Hein, verset 12. Et en fait, le problème de Saül, c'est quoi ? Bah, devine, sois spirituel. Accepte. Accepte que Dieu élève quelqu'un d'autre. Et que ce soit le prochain roi, et que ce soit plus toi. Est-ce que ton identité et ta valeur, c'est dans ce que tu fais ou dans ta relation avec Dieu? Et souvent, c'est dans ce qu'on fait, dans ce qu'on produit, dans notre position. Et pourtant, il lui avait bien dit, au chapitre 15, c'est au verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Et c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, et ma femme est en train de lire un livre que je vais lire après, « Le pouvoir rend-il fou ?» Quelque part, quand on commence à s'élever un peu au-dessus des autres, il y a comme une addiction au pouvoir. Il y a notre valeur et notre identité dépend maintenant de notre position sur les autres. Et on ne peut pas accepter... de redescendre quelque part. C'est comme une addiction. D'accord ? Et donc, il était dans ce problème-là, Saül. D'accord ? Mais il est arrivé là parce qu'il y a eu des décisions avant qui l'ont conduit là. Hein ? Si David a été choisi pour être le roi selon le cœur de Dieu, c'est parce que Saül n'avait pas le cœur après Dieu. D'accord ? Lui cherchait cette gloire quelque part. Il est dit d'ailleurs, ce que c'est dit. Au chapitre 15, un peu plus loin, où au verset 12, il est dit, et on vient lui dire, donc c'est Samuel qui était à la... C'est Samuel qui devait retrouver Saül, et on vient lui dire, et voici, il s'est érigé un monument. Il voulait pas être le roi d'Israël, puis maintenant il s'est érigé un monument. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? L'orgueil encore. L'orgueil ? Vouloir être au-dessus des autres ? Au lieu d'être à notre place et d'être au service les uns des autres. Donc ça, c'était l'insécurité. Et j'aimerais vous dire que c'est un problème avec lequel on bataille tous, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné dans notre vie. D'accord ? Une jeune femme, peut-être, qui n'est pas aussi jolie ou qui n'a pas les critères de la mode d'aujourd'hui, qui peut se sentir... qui peut vivre cette insécurité. Dans une classe, un gars qui n'est pas très fort dans sa classe, et comment il va se faire remarquer ? En faisant des bêtises souvent. Parce qu'il n'arrive pas à se faire remarquer en étant fort à l'école. Dans une famille, dans les relations, l'insécurité. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'apprendre à savoir qui on est en Jésus-Christ. De savoir qu'on a de la valeur, de savoir qu'on est accepté, de savoir que Dieu est avec nous, de savoir que Dieu a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas d'être le premier en tout. Ce plan, c'est d'être à notre place, dans les dons qu'il nous a donnés, au service les uns des autres. Pas pour s'élever au-dessus des autres, mais pour servir les uns des autres. Et c'est la tragédie de l'homme, c'est que quand il n'y a plus Dieu, on s'élève au-dessus des autres. Et quand on est avec Dieu, on sert les uns des autres. Et quelque part, c'est ce que David, parce qu'il a été un grand roi, David. Il a fait des bêtises, peut-être même pire en apparence que Saül, mais il savait rester à sa place. Il savait accepter d'être corrigé, d'être humilié et de rebondir. Et Saül n'a jamais fait ça. Donc la chose va empirer. Si vous ne traitez pas la chose avec Dieu, en Dieu, par Dieu, c'est comme un cancer qui va gangréner et qui va devenir de plus en plus grave, de plus en plus violent. Donc il a essayé de tuer David, et puis après... Il va continuer de le faire, il va s'emporter, il va se disputer pour son fils. Alors que Jonathan voulait que ce soit David le roi. Il dit, mais tu vois pas que c'est un danger pour ton royaume et pour tous. Il va s'enfoncer dans sa folie, dans son raisonnement et dans son orgueil. Donc ça, c'est l'insécurité. Donc de savoir rester petit, à nos propres yeux, ça veut dire quoi ? On doit demeurer dans la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Et on ne se compare pas les uns les autres. Et on s'apprécie les uns les autres. Et on apprécie les dons des uns et des autres. Parce que c'est comme ça que l'Église s'édifie. Pourquoi Dieu nous a donné des dons? C'est pas pour être au-dessus des autres, c'est pour édifier les autres. Et l'Église, justement, quand on vit comme ça dans la grâce de Dieu, eh bien, on se sert les uns les autres, on utilise nos dons au service des autres, et on devient riche. Et en fait, on devient, dans le corps de Christ, on devient... on est au bénéfice des dons de tout le monde. Donc on est édifié. On est élevé. On est construit. On n'est pas en insécurité. Parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos performances. Ça, c'est l'amour des hommes. Je fais bien, tu es bien aimé. Je fais pas bien, tu n'es pas aimé. C'est pas comme ça. L'amour de Dieu est inconditionnel. D'accord ? Donc on a besoin de laisser la parole de Dieu guérir notre image propre et construire notre identité. Une nouvelle identité. On est 2 Corinthiens 5, 17, on est une nouvelle création en Christ. Et là, on trouve la liberté, on n'a plus besoin de se défendre, on n'a plus besoin de se justifier, on n'a plus besoin d'agir dans la crainte du rejet des autres ou du regard des autres. Combien de gens sont motivés simplement par le regard des autres? Du qu'en dira-t-on? Et dans le monde religieux aujourd'hui, beaucoup de gens font simplement tout ce qu'ils font religieusement à cause du regard des autres. Je sais que dans l'islam, c'est très fort, mais dans le christianisme, dans certaines formes de christianisme aussi. D'accord ? Si c'est que religieux, c'est juste pour... parce que c'est... voilà. Qu'est-ce que les autres vont dire ? Hein ? Eh bien, on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci pour votre écoute. Et juste nous encourager... ce soir, de savoir que on peut être dans le repos de l'amour de Dieu. D'accord ? On peut apporter nos émotions, nos réactions, nos situations, Seigneur. Et recevoir sa parole, recevoir ses conseils, recevoir ses pensées. Et prendre ses pensées. Et penser avec ses pensées. Et ça va nous élever. Et j'aimerais vous dire, ça va régler vraiment les problèmes en profondeur. Nos solutions, c'est que du superficiel. Ce n'est qu'à court terme. C'est que simplement pour garder notre ego élevé et simplement rassurer notre orgueil. Mais ça n'édifie personne et surtout pas nous. D'accord ? Surtout pas nous. Donc des émotions, on en a. On peut pleurer devant Dieu. On peut se tourner vers Dieu. Et on peut lui demander son aide. Pour justement, donne-moi la sagesse. On terminera avec ce verset dans Jacques chapitre 1, verset 5. Et si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Il attend que ça de nous la donner. D'accord ? Et si nous, on pense avec lui, j'aimerais vous dire, ça prend un peu de temps. Mais là, on commence à construire sur quelque chose qui est sûr et qui est solide. Sinon, on s'amuse. Et on essaye de prendre soin de nos émotions. Mais je vous dis, on joue avec les situations, les circonstances, les relations et les gens. Et à la fin, c'est nous qui payons les pots cassés. Parce qu'il n'y a rien qui est construit. C'est toujours moi, moi, moi. Maintenant, si on se laisse construire par Dieu, tout le monde est élevé. Et c'est ça la vie du corps de Christ. D'accord ? Seigneur, merci de nous apprendre, Seigneur. De nous apprendre à vivre nos émotions. Nos situations devant toi, à savoir nous confier en toi, à savoir nous reposer en toi, à savoir accepter de plier le genou. Et un des mots clés de ce soir, c'était l'humilité, et c'était de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix, de te faire confiance, de te laisser faire justice, de te laisser être notre valeur et notre sécurité. Et Seigneur, pour que nous trouvions la liberté et cette paix dans la communion avec toi, dans l'amour que tu en réserves pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, aide-nous à grandir ensemble, chacun en particulier, et ensemble, les uns les autres, dans cet amour, dans cette paix, dans ces fruits de l'esprit. Et un des fruits de l'esprit, on parlera de ça la semaine prochaine, la maîtrise de soi. Seigneur, où justement on ne laisse pas nos émotions nous emporter dans la folie de nos cœurs, mais on les soumet à toi, Seigneur, on les place devant toi et on laisse la vérité de ta parole nous éclairer et nous garder et nous protéger de nous-mêmes et des autres avec ta sagesse. Seigneur, bénis ton peuple, ton Église, on a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de ta sagesse. Et Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à vivre devant toi avec plein d'émotions, mais des émotions qui sont saines, des émotions qui sont guéries, restaurées, des émotions qui qui nous emportent pas dans la folie de nos cœurs, Seigneur, mais qui vont construire nos vies et que vont construire les autres, et nos relations les uns avec les autres, au nom de Jésus-Christ, et qui vont te donner gloire. Amen.